Bonsoir et bienvenue sur Radio Nat pour cette édition spéciale sur la Coupe 21 qui se tiendra en France, à Paris, la Ville Lumière, du 30 novembre au 11 décembre prochain. Cette 21e édition de la conférence des parties, plus souvent appelée Coupe 21, est une suite du protocole de Kyoto de 1997 et du décevant sommet de Copenhague de 2009. C'est dans cette conférence internationale qui réunira 195 pays ainsi que l'Union européenne que se jouera l'avenir de la Terre. Le but principal de la COP21 est de trouver des solutions au problème du réchauffement climatique, qui menace les équilibres écologiques, économiques et sociaux de la planète. Alors, aujourd'hui, dans cette édition, nous allons évoquer cette COP21 et ses enjeux, en dressant tout d'abord un tableau de la situation actuelle, avec des constats alarmants. Nous montrerons que la France et l'Union européenne y jouent un rôle moteur, mais aussi que tous les regards sont tournés vers les principaux émetteurs de CO2. Les États-Unis et la Chine. Nous aborderons également la position des pays en cours de développement, des pays émergents aux pays les moins avancés. Commençons donc par ce constat très alarmant à cause des émissions croissantes de CO2. Le réchauffement climatique s'accélère et touche de nombreuses régions de la planète. L'objectif de la COP21 est d'aboutir à une réduction des émissions de CO2, d'au moins 40% d'ici 2030. Julie, Annabelle, Sacha et Kiara nous expliquent les enjeux de cette conférence.
En 2013, le record des émissions de CO2 a été une nouvelle fois battu, avec une croissance de 2,3% par rapport à 2012. Et cet exemple de croissance des émissions de CO2, qui s'observe partout dans le monde, montre que notre planète fait face, aujourd'hui, à des enjeux écologiques, économiques et sociaux majeurs. En effet, en un demi-siècle, la concentration en gaz carbonique dans notre atmosphère a augmenté de 30%. Les scientifiques ont constaté qu'en l'espace de 50 ans, la température moyenne de notre planète a augmenté de 1 degré Celsius et ce chiffre risque d'augmenter de 4,6 degrés d'ici la fin du siècle si nous ne réagissons pas rapidement. Les conséquences seront alors dévastatrices. Plus d'un tiers des espèces animales se retrouvera sans habitat. Les catastrophes écologiques ne cesseront de se multiplier, les nappes phréatiques s'épuiseront et la chaleur causera l'infertilité des terres agricoles. Ces dernières années, les scientifiques ont pu constater de nombreuses manifestations du réchauffement climatique, comme la fonte excessive des glaciers. En 10 ans, le Groenland a perdu plus de 1 500 milliards de tonnes de glace et la banquise de l'Arctique ne cesse de reculer. Cette fonte entraînera avec elle une hausse du niveau de la mer. D'ici 2100, ce niveau risque d'augmenter de 90 cm, peut-être 2 mètres, après avoir déjà augmenté de 20 cm depuis le début de la période industrielle. D'un point de vue social, les inégalités restent très préoccupantes. Inégalité d'accès aux ressources, en particulier à l'eau et à l'électricité, inégalité d'accès aux soins et à l'éducation, la pauvreté ou encore la malnutrition dont souffrent presque 1 milliard d'êtres humains. 20% de la population mondiale consomme 80% des richesses, alors que près d'un milliard d'individus vit sous le seuil de la pauvreté qui est de moins 2,90$ par jour. L'Afrique est le continent le plus touché par ces inégalités. Sur les 61 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école en 2010, près de 31 millions vivent en Afrique subsaharienne. 25% des personnes sous-alimentées vivent sur ce continent. Et alors que les ressources s'épuisent, la population mondiale, elle, ne cesse d'augmenter. Les scientifiques estiment qu'en 2050, la population mondiale passera de 7,5 milliards d'individus à plus de 9 milliards. Ce rythme de croissance reste bien supérieur à celui de nos ressources agricoles et à notre capacité actuelle à fournir des énergies non renouvelables. Il sera difficile de satisfaire tous les besoins, notamment dans les pays du Sud. Pour agir sur ces menaces, les experts du climat estiment qu'il faut réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le protocole de Kyoto a lancé le mouvement de réduction en 1997, un mouvement qui doit être poursuivi et amplifié afin de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Et si nous ne voulons pas, dans 100 ans, vivre sur une planète que nous ne reconnaîtrons peut-être pas, nous devons réagir vite et efficacement. C'est ce que propose la COP21 en s'appuyant sur ces trois piliers, écologiques, sociaux et économiques, qui représentent le développement durable. Une forme de développement qui cherche à augmenter la production pour une population croissante, tout en préservant l'environnement et en diminuant les inégalités sociales. C'est un défi immense qui attend donc les États réunis à Paris à partir de la semaine prochaine.
Malgré les attentats du 13 novembre dernier, la France accueillera bien la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, même si les manifestations auront moins d'ampleur que prévu. Comme l'Union européenne, la France jouera un rôle important dans cette COP 21. C'est un reportage de Kevin Pierre-Olivier, Samri et Xavier.
À partir du 30 novembre, la France, désignée pays hôte par les Nations Unies, va recevoir les États du monde entier pour l'une des plus importantes conférences diplomatiques internationales qu'elle n'ait jamais organisée. Les récents attentats perpétrés à Paris et dans sa banlieue pèseront sur le déroulement de cet événement, mais la France a tenu à respecter ses engagements et la COP 21 aura bel et bien lieu. La conférence a pour but de freiner les évolutions du dérèglement climatique qui menace nos sociétés et nos économies. Tout le gouvernement est mobilisé autour du président François Hollande. Pour assurer la réussite de cet événement planétaire qui sera présidé par Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international. Alors, quels sont les enjeux pour la France qui veut avoir un rôle exemplaire dans cette conférence? Le premier enjeu tient d'abord à l'organisation. Le monde entier a été choqué par les attentats du 13 novembre dernier et la question pour la France est d'assurer la sécurité des quelques 40 000 participants attendus, parmi lesquels plus d'une centaine de présidents et de chefs de gouvernement qui feront le déplacement fin novembre, dont Barack Obama et Vladimir Poutine. Un important dispositif de sécurité était déjà prévu, mais après les drames survenus, ce dispositif devrait être doublé. L'enjeu clé de la COP 21 est principalement le financement des politiques climatiques à mettre en œuvre. Il faudra réunir 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 afin d'aider les pays en développement à entrer dans la transition énergétique et à appliquer les décisions prises sur les questions climatiques et environnementales. Les pays les plus développés et les institutions internationales s'étaient engagés à Copenhague en 2009 à contribuer à ce fonds climatique et cette somme considérable est en passe d'être réunie alors que l'ouverture de la COP 21 approche. La France n'est pas seule face à ce défi. L'Union européenne joue aussi un rôle moteur dans la préparation de la COP 21. Les 28 États membres, responsables de près de 10% d'émissions de gaz à effet de serre sur la planète, s'engagent à réduire de 40% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Afin de lutter contre les changements climatiques et mettre l'Union sur la voie d'une économie à faible intensité de carbone. Avec cette proposition, l'Union européenne souhaite envoyer un signal fort à la communauté internationale dans la perspective de la COP 21. Et elle en voit encore plus loin. L'objectif à long terme est une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici 2050.
Alors, pour parler du rôle de la France, nous recevons M. Bonneau, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Haïti. Bonjour M. Bonneau.
Bonjour, bonjour, merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
Commençons par la question qui inquiète. Quel impact les attentats du 13 novembre vont-ils avoir sur l'organisation de la COP 21?
Alors, cette question effectivement n'est pas directement centrée sur la COP 21, mais sur la possibilité de la tenir malgré les attentats navrants qui ont effectivement qu'a vécu la France il y a quelques semaines. Nous espérons qu'ils n'auront pas un impact important. Cette COP 21 devrait se tenir, c'est un engagement politique fort et bien au contraire, c'est une possibilité de montrer à la planète que l'ensemble des États et la planète entière est capable de continuer à discuter malgré les risques que peuvent apporter ce genre d'événement et le terrorisme en général. Donc normalement, la COP 21 devrait se tenir, peut-être dans un format un peu plus réduit que celle qui était prévue, mais elle sera l'occasion de démontrer aux terroristes que les États sont capables de se parler et de s'entendre.
Nous savons que les émissions de CO2 et les changements climatiques vont être au centre de la COP 21, mais quels autres sujets vont être traités?
Alors évidemment, une COP 21 qui regroupe en gros 196 pays et disons peut-être autour de 120-130 chefs d'État, c'est une occasion de traiter des différents sujets qui préoccupent la planète. Alors c'est bien évidemment tout d'abord, et vous le savez, la problématique du changement climatique sur lequel on va revenir puisque c'est le cœur de la COP 21 et c'est le cœur de la conférence, mais également peut-être d'autres sujets justement comme le terrorisme, etc., la lutte contre le terrorisme et d'une manière générale la sécurité sur la planète sera certainement un enjeu. Mais je dois dire qu'il y a des liens forts entre, les changements climatiques et le développement. C'est ce sur le quoi on va revenir. Et c'est peut-être les points sur qui évidemment, ont des impacts sur, finalement, quelque part, le terrorisme aussi.
Maintenant, abordons la question des engagements que la France et les autres pays européens vont prendre en faveur du développement durable.
Alors, vous le savez, la COP 21, c'est plusieurs choses. L'idée, c'est de faire une alliance globale pour le climat. Alors, tout d'abord, peut-être, il y a plus tellement de doutes sur l'impact de l'homme et de l'origine de l'homme sur les changements climatiques. Et par conséquent, depuis un siècle à peu près, il s'est avéré, et ça s'accroît, que le climat change et que la température augmente sous l'effet en particulier de l'action humaine. Donc l'enjeu de cette conférence, c'est de mettre en place une alliance globale pour le climat, rassemblant l'ensemble des pays de la planète, comme je viens de l'évoquer, pour pouvoir mettre en place en particulier un accord qui soit le plus contraignant possible, qui soit ambitieux, qui soit dynamique, qui soit équilibré, et qui permette d'impliquer l'ensemble des États qui devraient s'engager à lutter ensemble contre le réchauffement climatique, évidemment de manière différenciée selon que le pays est très développé ou que le pays est très pauvre.
Venons-en à présent aux actions menées par la France contre les changements climatiques en Haïti. Que fait la France ?
Alors, en Haïti, tout particulièrement, notre action sur le changement climatique porte sur globalement trois domaines. D'une part, je dirais la gestion des bassins versants et des ressources en eau, point important, considérablement important dans ce pays. Un deuxième point important, c'est évidemment le renforcement de la sécurité alimentaire, puisque les changements climatiques, notamment dans des pays comme Haïti, vont avoir un impact considérable sur la production agricole et sur la sécurité alimentaire. Et puis, le troisième axe, c'est plutôt une aide à l'aménagement du territoire en général. Donc, nos actions en Haïti portent essentiellement sur tout ce qui concerne la gestion du territoire rural, le développement des politiques agricoles et des filières, l'aménagement des bassins versants et indirectement la reforestation, puisque vous le savez que effectivement le couvert forestier d'Haïti est faible, la forêt porte sur 3-4% du territoire, mais en revanche, la couverture arborée d'Haïti dépasse de loin cela et est autour de 30%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arbres dans le milieu rural, mais qui ne constitue pas une forêt. L'objectif pour nous est d'augmenter ce nombre d'arbres et de faire en sorte que justement les sols soient restaurés, les bassins versants soient mieux aménagés et la production agricole soit maintenue.
Pensez-vous qu'il existe un plan d'urgence si la COP 21 échoue, comme à Copenhague en 2009 ?
Alors là, ça c'est une bonne question. Je ne suis pas dans le sein des saints, mais l'idée a toujours été de dire, avec un peu de risque, qu'on n'avait pas de plan B. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de commencer par proposer une solution de rechange, mais de s'engager avec optimisme et ambition sur cet accord général. Alors évidemment, moi je dirais qu'on est plutôt bien parti, mais qu'on saura dans quelques jours si le résultat était à la hauteur de nos ambitions et de notre travail, puisque ça fait quand même plus d'un an que l'ensemble de la communauté française, et notamment diplomatique, travaille pour faire en sorte qu'un accord soit le plus contraignant, mais surtout le plus efficace possible et le plus ambitieux possible pour faire justement, pour réduire la température d'au moins 2 degrés sur le demi-siècle à venir. Je pense que on peut s'entendre qu'il faut noter que la COP 21 ne sera qu'une étape. Donc peut-être que tout ne sera pas résolu, peut-être qu'on n'obtiendra pas tout à fait ce qu'on souhaitait, mais l'idée de l'accord reste à mon avis la solution et on s'engage essentiellement là-dessus. Après, est-ce que l'accord sera passé maintenant ? Normalement, l'idée, c'est de passer cet accord, enfin de signer cet accord, et puis de le mettre en œuvre à partir de 2020. Donc là-dessus, il y a peut-être débat sur les périodes de mise en œuvre, sur le montant des financements qui vont être alloués à la mise en œuvre de l'accord. Mais très honnêtement, l'ambition globale reste la solution et la solution qu'on peut espérer.
Merci, Monsieur Bonneau, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Et j'espère qu'on obtiendra un véritable accord dynamique et efficace de l'ensemble des pays de la planète. Ça montrera quand même que, malgré les différentes guerres et les différents événements qui secouent en ce moment quand même la planète, pas forcément dans un sens très, très, euh, très positif, on puisse, avec cette COP21, rassembler les hommes autour d'un, d'un projet commun et d'une ambition à la hauteur des enjeux pour maintenir la planète, maintenir la vie sur la planète le plus longtemps possible. Merci bien.
Les États-Unis sont l'un des pays majeurs de cette COP21, par leur émission de CO2 et par leur poids diplomatique. Très impliqués dans les négociations préparatoires, les États-Unis ont cependant indiqué, par la voix du secrétaire d'État, John Kerry, qu'ils ne signeront aucun accord contraignant. Dans ces conditions, peut-on s'attendre à un autre échec comme celui de Copenhague ou envisager qu'un accord marchera sans les États-Unis? Par ailleurs, la Chine est notre grand pollueur du monde avec 25% des émissions de CO2. Mais ensemble, vont rattraper son retard dans ce domaine. Angela, Larry, Safouik et Thierry nous exposent les positions de ces gros pollueurs.
La position des États-Unis et de la Chine dans la COP21 est essentielle. Ils sont les deux principaux émetteurs de CO2, mais ils ont déjà adopté des mesures pour limiter le changement climatique. Le 7 novembre dernier, le président Barack Obama, qui sera présent à Paris, a rejeté le projet Keystone XL, un projet de transport du pétrole vers les États-Unis en utilisant des pipelines. Cet abandon montre que les États-Unis agissent contre les changements climatiques. Ils veulent limiter les pollutions liées au pétrole. Mais il faut également préciser que ce projet ne bénéficie guère à l'économie américaine. Le président Obama a précisé les raisons de l'abandon. Le département d'État a décidé que le projet Keystone XL n'était pas dans l'intérêt national des États-Unis. Je suis d'accord avec cette décision, a-t-il ajouté depuis la Maison-Blanche. L'oléoduc ne pourrait pas baisser le prix du carburant pour les consommateurs américains. Transporter du pétrole brut plus sale jusque dans notre pays ne renforce pas la sécurité énergétique des États-Unis, a-t-il souligné avant de conclure que approuver un tel projet aurait affaibli notre leadership sur leur climat. Le président Obama en a profité pour exprimer sa confiance dans la COP21, déclarant être optimiste sur la capacité des États à agir ensemble. Rappelons que si les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto et ont été jugés responsables de l'échec de la conférence de Copenhague. Ils sont malgré tout déjà engagés dans la réduction des émissions de CO2. La Chine sera elle aussi un acteur majeur de la conférence. Dans sa contribution, le gouvernement chinois a fixé son pic d'émissions de CO2 autour de 2030 avant d'envisager une réduction de ses émissions. Selon le premier ministre chinois Li Keqiang, la Chine déploie le maximum d'efforts pour lutter contre le changement climatique et assume sa responsabilité pour participer en profondeur à la gouvernance mondiale et promouvoir le développement partagé de l'humanité. Pourtant, les problèmes restent nombreux en Chine, comme la pollution de l'air qui touche de nombreux Chinois ou les industries qui consomment beaucoup d'énergie polluante.
Les pays émergents, tels que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, davantage préoccupés par leur développement économique, sont en retard par rapport aux pays développés sur les questions environnementales. Malgré cela, ils prennent des initiatives, notamment en matière d'énergie, en s'orientant vers des énergies vertes. Alors, est-ce que les nouvelles contraintes écologiques auront des effets négatifs sur leur économie et freineront leur croissance? Alexa, Jennifer, Kiara et Yara apportent des réponses à cette question.
En 1992, le Brésil a reçu à Rio de Janeiro le sommet de la Terre où les États ont adopté l'agenda 21 prévoyant de nombreuses actions pour le développement durable. Comme le Brésil, les pays émergents sont engagés dans la lutte contre les changements climatiques, même si leur position est assez délicate. En effet, comment demander à ces pays à peine entrés dans l'industrialisation véritable de freiner leur développement ou de s'adapter à de nouvelles formes de développement plus durables? L'enjeu est de taille. Voilà pourquoi le président François Hollande a demandé à la Chine, pays émergent d'hier, d'essayer de convaincre les pays émergents d'aujourd'hui, parmi lesquels l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde, qui est considéré comme le troisième pollueur mondial. Ces pays ont déclaré vouloir adhérer à un accord malgré les coûts qu'ils pourraient entraîner. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a indiqué que l'adaptation au dérèglement climatique coûterait à l'Inde 2300 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années. Les pays émergents attendent donc d'une part une aide financière des pays du Nord et d'autre part un transfert de technologie à un coût abordable afin d'adapter leur développement aux exigences du développement durable. Si ces aides sont accordées, l'Inde s'engage à produire 40% de son électricité à partir d'énergies renouvelables à l'aide de panneaux solaires d'ici 2030. Cela représenterait une avancée considérable pour ce pays en pleine croissance économique et démographique. Tout comme l'Inde, l'Afrique du Sud voudrait bien s'engager, mais le côté contraignant de l'accord rend un peu sceptique ce pays moteur en Afrique, car un accord contraignant pousserait les États à revoir à la baisse leurs ambitions puisqu'ils voudront minimiser les risques. Quant au Brésil, quoique responsable de la déforestation qui participe au réchauffement, il est un acteur historique des négociations climatiques depuis le sommet de la Terre. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37% d'ici 2025 et de 43% d'ici 2030 et d'éradiquer la déforestation illégale avant les 15 prochaines années, un objectif pourtant jugé irréalisable par certaines organisations non gouvernementales comme Greenpeace. Malgré tout, la France entend s'appuyer sur le géant d'Amérique latine pour convaincre les pays émergents d'accentuer leurs efforts. La voix du Brésil est très écoutée, dit-on à Paris. En définitive, malgré le risque de ralentir leur développement, les pays émergents apparaissent très engagés dans la lutte contre les changements climatiques et souhaitent le succès de la conférence de Paris. Ces pays, de plus en plus influents sur la scène mondiale, ne veulent pas être ceux qui ont dit non à un accord universel sur le climat.
Venons-en à présent au cas des PMA, les pays les moins avancés et notamment Haïti, qui n'ont pas été très présents dans les accords précédents. Quels rôles peuvent-ils jouer dans cette conférence? Pourront-ils s'adapter aux exigences de la COP 21? C'est ce que nous expliquent Anya, Benji, Gabriel, Ingoé et Mathias.
Quelques semaines avant l'ouverture de la COP 21, l'ensemble des pays les moins avancés ont rendu leurs copies en matière de lutte contre le changement climatique. Mais ces contributions, parfois ambitieuses, restent dépendantes de financements internationaux qui restent encore hypothétiques. Cet effort commun de mobilisation a cependant enclenché une dynamique positive nécessaire à la réussite de la COP 21. Les 48 pays les moins avancés, dont les trois quarts se trouvent en Afrique, ont donc presque tous remis une contribution nationale en vue de la conférence des Nations Unies. Pourtant, les PMA ne sont guère responsables du réchauffement climatique. L'Afrique, par exemple, ne participe qu'à hauteur de 4% des émissions mondiales de CO2. L'effort des pays en développement dépasse donc largement leurs responsabilités dans le cadre du réchauffement climatique, sans doute parce que ces pays peu pollueurs seront les principales victimes du réchauffement climatique auquel ils ne sont pas préparés. Certains pays d'Afrique ont annoncé des efforts importants. Le Gabon, État pétrolier d'Afrique centrale, prévoit de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre, alors que les Éthiopiens envisagent une réduction de 60%. Mais les pays en développement restent méfiants. Pour eux, les nations les plus riches ne les aident pas assez financièrement et ne partagent pas leurs avancées technologiques. Le Congolais Tosi Pamu, président du groupe des PMA, souligne que le processus de l'ONU souffre d'un manque total de confiance entre les pays riches et les pays pauvres. La COP 21 sera certainement l'occasion de régler quelques malentendus et incompréhensions. Quant à la République d'Haïti, elle a soumis sa contribution nationale le 30 septembre dernier. Bien qu'elle soit classée au 4e rang mondial de vulnérabilité aux effets de changement climatique et qu'elle soit l'un des plus faibles émetteurs de CO2 au monde, Haïti est ambitieuse. Elle prévoit une réduction de 5 à 31% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ainsi qu'une augmentation de 47% de la part des énergies renouvelables dans son système électrique national. La contribution d'Haïti planifie d'importantes mesures d'adaptation. L'État haïtien s'engage à aménager 15 bassins versants, à protéger les zones côtières face aux impacts des changements climatiques et à développer la bioéconomie. Pour y parvenir à ces fins, l'État haïtien se prépare à négocier un financement global de plus de 25 milliards de dollars. et le seul pays émergent du continent américain ne manquera pas d'évoquer à Paris l'invasion des algues sargasses sur les côtes sud d'Haïti, dont la prolifération serait causée par l'augmentation de température et par la pollution venue des États-Unis et du Brésil. Plus largement, la principale question posée par les PMA sera de déterminer si les pays riches doivent dédommager les pays pauvres pour les pertes et les dégâts causés par l'accélération du changement climatique, dont les PMA ne sont pas responsables.
Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur la COP21 qui s'ouvrira la semaine prochaine à Paris. Et d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous sur Radio NAD pour une deuxième édition spéciale qui fera prochainement le bilan de cette conférence. Aïna, Christina, Franck, à bientôt.